Repos. Vit-on jamais à quelqu'un l'air aussi triste? Mais, disaient les gens, ne s'agit-il pour elle que de paraître? Qui avait-il derrière sa beauté, ce magnifique extérieur? S'était-il fait sauter la cervelle? Demandait-on. Était-il mort dans la semaine précédant son mariage? Cet autre et premier amoureux dont on avait entendu parler. Ou n'y avait-il rien? Rien qu'une incomparable beauté derrière laquelle elle passait sa vie et qui lui était impossible de troubler. Car, bien qu'en dans une heure d'intimité, où se présentaient à elle des histoires de grandes passions, d'amour déçu, d'ambition traversée, il lui eût été facile de dire elle aussi ce qu'elle avait connu, senti ou supporté. Elle ne parlait jamais d'elle-même. Elle se taisait toujours. Elle savait donc. Elle savait sans avoir appris. Sa simplicité allait à ce fond des choses que falsifient les gens habiles. La sincérité de son esprit la faisait se diriger aussi droitement qu'un fil à plomb, se poser sur un objet avec l'exactitude d'un oiseau, lui donnait naturellement cette impétueuse saisie de la vérité par l'âme qui ravit, soulage, soutient, peut-être à tort. La nature n'a pas beaucoup d'argile comme celle dont elle vous a modelé, dit un jour Monsieur Banques, en entendant sa voix au téléphone et avec une grande émotion, bien qu'elle ne fît que lui donner une information concernant un train. Il la voyait au bout du fil, avec son air grec, ses yeux bleus, son nez droit. Qui lui paraissait donc incongru de téléphoner à une femme pareille. Pour composer ce visage, il avait, semblait-il, fallu que les grâces réunies se prissent par la main sur des champs d'asphodèles. Oui, ils attrapaient le train de 10h30 à la gare d'Euston. Mais elle n'a pas plus conscience de sa beauté qu'un enfant, dit M. Banques, raccrochant le récepteur et traversant la pièce pour aller voir où en était.